Bonjour Françoise Bellonio.
Bonjour.
Je crois pouvoir dire, sans risque d'être démenti, que vous êtes l'une des meilleures spécialistes de l'œuvre d'Alexis de Tocqueville. Je ne donnerai qu'un seul argument pour étayer mon affirmation. À partir de 1996, vous êtes la secrétaire scientifique de l'édition monumentale des œuvres complètes de Tocqueville et son éditrice aux éditions Gallimard. Vous avez été présidente de la société Tocqueville. Vous êtes professeur émérite de littérature française et puis vous recevez le 28 mai 2026 à Bordeaux le prix Montaigne accordé par la ville de Bordeaux et l'Académie du vin de Bordeaux, qui est un prix très très bien doté en termes, on va dire, de production locale. Et vous me disiez d'ailleurs tout à l'heure que Tocqueville buvait du vin de Bordeaux.
En effet, mais... Je pense que si l'Académie avait connu le passage où il parle du vin de Bordeaux, je n'aurais pas eu le prix, parce que Tocqueville buvait du vin de Bordeaux qu'il mélangeait avec de l'eau, parce qu'il pensait que c'était bon pour sa santé, il était tuberculeux. Alors, j'ai un doute, mais c'était sûrement bon pour son moral.
On va revenir sur, évidemment, en particulier, son état de santé. Je reviens, votre riche carrière d'universitaire vous a conduit à avoir des responsabilités institutionnelles. Vous avez été directrice adjointe de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, doyenne du Collège universitaire de Sciences Po Paris pendant deux ans, de 2013, puis pendant deux ans, de 2013 à 2015, directrice des études. C'était à l'époque où Frédéric Mion dirigeait Sciences Po Paris. Et puis, j'ai lu quelque part que vous avez dit « Enseigner, c'est transmettre le désir d'apprendre ». Et après avoir dévoré votre Tocqueville, publié dans la prestigieuse collection Biographie au pluriel NRF Gallimard, je crois que l'on peut dire que vous nous avez transmis par ce livre le désir d'aller plus loin dans la connaissance de l'œuvre considérable d'Alexis de Tocqueville. Alors, je voudrais commencer, si vous voulez bien, non pas par le commencement de votre ouvrage, mais par une dimension dont on parle peu, qui est la figure de Tocqueville au sens de la personnalité. Page 451-452, dans le chapitre 30 de votre livre, qui ouvre votre septième et dernière partie, chapitre intitulé « Portrait d'un mélancolique », vous écrivez ceci, et je précise que Tocqueville, qui est né en 1805, est mort en 1859 à 54 ans, ce qui, quand même, pour l'époque, est quand même jeune. Alors, je vous cite, et ce sont d'ailleurs des termes que vous reprenez d'un de vos précédents ouvrages, « Tocqueville et les Français ». Vous dites « Il a, selon ses adversaires, une éloquence monotone en sirop de limaçon, un style de buveur de thé, une dysenterie d'arguments digne de pensionnat de demoiselles. » Et puis plus loin, en un temps où la critique, dans le sillage de Sainte-Beuve, expliquait les œuvres par les tempéraments et les climats, le ciel souvent gris de Normandie passa pour aggraver encore la mélancolie d'un valétudinaire. Fin de citation. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un portrait d'un personnage très flamboyant. Mais pour autant, et là, je reviens à votre avant-propos, page 12, vous dites, au point d'être peut-être en contradiction avec ce portrait, je vous cite là encore, « Il y a chez Tocqueville un optimisme de la volonté et même une joie dans la lutte qui force l'admiration. Tocqueville n'est pas le penseur chagrin qu'a peint toute une tradition anti-moderne, avec cette belle phrase qui renvoie quelque part à Camus, il faut imaginer Sisyphe heureux. Quelle était la personnalité de Tocqueville? Vous dites qu'il était de petite taille, qu'il souffrait de tuberculose, cause de sa mort d'ailleurs, et vous dites qu'il aurait contracté ce mal pulmonaire en ayant très froid à Memphis lors de son voyage au Canada le 12 décembre 1831. Au cours d'une nuit polaire à Sandy Bridge, dans le Tennessee. Alors, c'était qui, Tocqueville, du point de vue du caractère et du physique?
C'est quelqu'un dont, effectivement, la santé a toujours été fragile. Dès la toute jeunesse, ça a été assez considérablement aggravé par le voyage aux États-Unis. Bon, à l'époque, le voyage aux États-Unis est une véritable aventure, surtout quand on veut aller jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Donc, il prend le bateau à vapeur, ça coule deux fois. Donc, ils sont débarqués dans de mauvaises conditions. Donc, ils se retrouvent dans la neige parce qu'il fait très froid. Donc, il faut suivre une carriole avec leur bagage dessus.
Il a 26 ans.
Il a 26 ans, mais les conditions, disons, sont vraiment rudes. sur quelqu'un dont la santé était fragile. Et je dirais, c'est ce qu'il y a d'émouvant dans le cas de Tocqueville. Vous savez, Proust dit que la recherche du temps perdu, c'est l'œuvre réussie d'une vie ratée. Alors, je dirais que pour Tocqueville, on peut dire que ses écrits, c'est l'œuvre réussie d'une vie empêchée. Empêché parce qu'il a cette fragilité qui fait qu'il n'est pas un très bon orateur, hein, parce qu'il n'a pas beaucoup de voix. Bon, il est petit, mais ça, c'est pas un handicap. Thiers doit mesurer 1m50, c'est compensable. Mais il n'a pas, si vous voulez, la prestance d'un Lamartine et il n'a surtout pas la voix d'un très grand orateur. Donc, du coup, il apparaît comme quelqu'un d'un petit peu fragile, un peu ancien régime, un peu aristocrate à l'ancienne. Et puis, alors, c'est ce que j'ai trouvé à la fois difficile et amusant quand on écrit une biographie. C'est un modéré. Et donc, ça n'est pas Alexandre Dumas, si vous voulez. Il ne va pas raconter sa montée à l'Etna comme une montée où on se brûle les pieds dans une sorte d'enfer. Vous voyez, donc, de même qu'il n'aime pas le hurlement en politique. Ce qui fait que Barbé d'Aurevilly dit que c'est la technique du bâillement. Donc, mais les bâillements, somme toute, parfois, c'est mieux que les hurlements. Et si vous voulez, il y a cette modération qui n'empêche pas d'avoir des principes extrêmement affirmés. Et c'est ça que je trouve, si vous voulez, finalement très intéressant dans ce personnage. C'est qu'il est à la fois modéré parce que, pour des raisons familiales dont on reparlera, il a la hantise de la violence politique. Il a le souvenir traumatisant de la Révolution, mais c'est en même temps quelqu'un qui a des principes qu'il veut absolument défendre et auxquels il ne renonce jamais, d'où cette espèce d'optimisme. Il ne s'avoue jamais battu. De même qu'il n'accepte jamais le racisme. Il est très, très hostile aux théories d'inégalité raciale comme Gobineau. Il se bat de toutes ses forces contre ça. Donc, vous voyez, c'est ce mélange entre un homme qui est mélancolique parce qu'il a des problèmes de santé, parce que sa vue de la société n'est pas une vue très positive.
Pas iréniste, quoi.
C'est pas, voilà. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui ne renonce jamais à la défense de ses principes.
Alors, votre livre est structuré en 7 grandes parties qui s'attachent aux différentes facettes d'Alexis de Tocqueville, je les cite, hein, « Un héritier »,« L'Américain »,« Le métier d'auteur »,« Un élu de terrain », À la Chambre, démocrate la veille, républicain le lendemain, et le regain. Alors, on va les reprendre les unes après les autres. Une question d'abord qui concerne ce que vous dites de lui, encore dans votre avant-propos. Je ne chercherai pas ici à réduire sa personnalité à l'unité. Est-ce qu'il est juste de dire qu'avec Tocqueville, on est en présence d'une pensée politique fondée sur le doute? Mais si vous le soulignez, ce fut aussi un homme d'action.
Oui, alors ça, c'est ce que j'ai essayé de faire, parce qu'au fond, on connaît Tocqueville comme théoricien, ou comme historien de l'Ancien Régime et la Révolution. Et lui-même a d'abord voulu être un homme politique.
Mais c'est ça.
Ça n'a pas été un très grand homme politique. Bon, il a une carrière tout à fait honorable quand même. Hein. Il est député pendant une quinzaine d'années, il est président de conseil général, il va être ministre à un très mauvais moment, mais enfin, il va être ministre des Affaires étrangères. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a un poids, qui a au moins pour lequel on a du respect en politique, mais pour lui, c'est ça qu'il voulait faire. Très jeune, il veut être un politique, et il écrit pour être un politique. Et en même temps, dans notre mémoire, il est important pour son œuvre et pas pour sa politique. Et ce que j'ai voulu montrer, si vous voulez, c'est qu'en fait, le fait qu'il ait voulu rentrer dans l'ordinaire des choses, vous voyez, devenir un homme politique, fait aussi la profondeur de sa pensée. Et donc, on ne peut pas séparer, si vous voulez, son activité politique, qui parfois est très modeste, hein, parce que à l'époque, un député... avant 1848, il connaît tous ses électeurs, il s'occupe beaucoup de leurs demandes pas toujours justifiées.
Non, parce que c'est le système censitaire aussi.
Oui, tout à fait. Donc il a 700 électeurs. Vous voyez, donc bon, ça prend beaucoup de temps, il faut les voir tous. Ils ont tous des réclamations parfois assez mesquines. Bon, donc il passe beaucoup de temps à ça. Mais c'est parce qu'il passe beaucoup de temps à ça aussi qu'il va réfléchir sur ce qu'est le fonctionnement d'une démocratie. Et donc, c'est ce que je trouve très intéressant, c'est ces figures d'intellectuels qui se veulent en même temps des hommes d'action. Ça n'est pas si rare que ça en France. C'est le cas de Guizot, c'est le cas de Jean Jaurès. Et c'est la doctrine de Jaurès, penser pour agir, agir en pensant. Bon, je ne veux pas être accusée de récupération, donc je ne l'ai pas employé comme titre, mais au fond, ça définit bien une certaine catégorie d'intellectuels en France.
Alors, vous dites, vous avez dit, il est issu de l'aristocratie. Hein. Alors, côté paternel, il s'agit d'une modeste noblesse d'épée, enfin, je peux le dire ainsi. Oui. Hein. Côté maternel, il en va tout autrement. C'est plutôt de la noblesse de robe. Il s'agit en particulier des deux Malesherbes, hein, des Malesherbes. Et c'est un lignage auquel Tocqueville est très attaché. Alors d'autant qu'il y a effectivement, à la mi-décembre 1792, il y a toute une série d'arrestations et toute une partie de la famille côté maternelle est guillotinée à la veille de Noël 1792. Alors il n'a pas connu, évidemment, cette période, puisqu'il est né, on le disait, en 1805. Mais on a l'impression que toute sa socialisation primaire baigne dans cette histoire.
Oui, c'est très important. Et je dirais que le père de Tocqueville lui-même, qui Hervé, qui est un préfet de la Restauration, est sous la fascination du modèle de Malesherbes. Malesherbes, c'est un personnage qui, pour Tocqueville, c'est un peu la statue du commandeur. C'est celui qui juge en permanence de son action. Malesherbes, il est connu dans notre histoire pour plusieurs choses que Tocqueville rappelle sans arrêt. Il est connu pour avoir défendu le peuple contre les impôts abusifs de la monarchie, puisque il est président de la Cour des aides, qui est une cour qui traite de la fiscalité. Il va ensuite défendre, rappelle Tocqueville, le roi face à la Convention. Et Malesherbes, quand il s'engage très âgé dans la défense du roi, c'est pertinemment qu'il sera guillotiné, ce qu'il est, ainsi que le reste de sa famille. Donc c'est un personnage qui, pour Tocqueville, est l'incarnation même, si vous voulez, de l'esprit de justice. Mmh. Alors on pourrait ajouter, Tocqueville en parle moins, mais c'est très important aussi, que Malesherbes était le directeur de la librairie, c'est-à-dire chargé de la censure. Et c'est grâce à lui, en partie, que nous avons l'encyclopédie Diderot, parce que Diderot était poursuivi par la police de Malesherbes, et Malesherbes cache chez lui les épreuves de l'encyclopédie. Évidemment, la police ne pense pas aller chercher chez le directeur de la police les épreuves. Donc Malesherbes a ce rôle-là, et c'est aussi Malesherbes qui plaide pour l'état civil donné aux protestants et aux juifs. Donc un exemple, vous voyez, de tolérance religieuse. Donc c'est un ancêtre qui fait que Tocqueville est très attaché à l'état de droit, et Tocqueville va vouloir rentrer dans la magistrature. Bon, d'abord parce que ses deux aînés étant dans l'armée, on ne pouvait pas mettre trois fils successivement dans l'armée. Donc on met le plus jeune, qui était le plus doué, dans la magistrature. Et il y rentre par piston, si j'ose dire, parce que le père de Tocqueville dit « Mais il est l'arrière-petit-fils de Malesherbes. En soi, c'est une recommandation. » Donc vous voyez, ça pèse très lourdement comme exemple. Et puis ça pèse aussi par le souvenir de la terreur, qui reste très présent dans l'aristocratie du 19e siècle.
Alors, du côté de sa mère, alors c'est un peu compliqué, mais une sœur de sa mère a épousé un frère de Chateaubriand.
Oui.
Hein, alors là aussi, du côté de Chateaubriand, on va voir que les relations, à un moment, vous avez une formule qu'on reprendra. Je crois que vous parlez d'une fascination réticente de Tocqueville à l'égard de Chateaubriand, de François, de René de Chateaubriand. Là aussi, on voit que l'ascendance maternelle, bon, il est au contact des grands auteurs. Mais la maman, on dirait aujourd'hui qu'elle est dépressive ou mélancolique ou bipolaire.
Oui. Oui, elle s'enferme dans sa chambre sans vouloir en sortir pendant des jours entiers dans le noir. Enfin bon, elle a une piété très névrotique. Ouais. Et en fait, elle meurt. Il a 30 ans, mais au fond, elle compte assez peu dans sa formation. Ouais.
Il est beaucoup plus proche de son père.
Il est beaucoup plus proche de son père. Ouais. Et d'ailleurs, le père, quand il est nommé préfet
en Moselle,
en Lorraine,
et en Lorraine,
en fait. Eh bien, le père est seul, ce qui pour un préfet n'est pas bien, parce que sa femme ne veut pas le suivre, il ne peut pas faire de réception à la préfecture, et ce qui lui vaut une popularité diminuée. Mais il appelle son plus jeune fils près de lui, il va le garder jusqu'au baccalauréat, et il s'occupe de la scolarité de son plus jeune fils. Ouais. Donc le jeune Tocqueville, si vous voulez, se retrouve avec ce père préfet, qui est un préfet autoritaire, dynamique, mais assez autoritaire. dont l'influence est sûrement forte en termes de personnalité. En termes intellectuels, ce qu'on a des lettres du préfet, c'est l'insistance sur la lecture des classiques latins et grecs, pas forcément le droit administratif. Mais c'est très important parce qu'en fait, Tocqueville a complété sa formation dans le collège public. Et il le rappelle tout le temps dans les querelles scolaires. Il est élevé dans
collège royal.
Dans le collège royal, qui est le collège public, évidemment avec une dimension religieuse sous la Restauration, mais avec une formation très solide en littérature ancienne.
Il va pas faire que qu'être auprès de son père, si j'ai bien lu rapidement. À 17 ans, il est papa, c'est ça?
Oui, alors
avec
ça,
une couturière de Sarreguemines.
Voilà, ça, c'est qu'un point que la famille actuelle n'aime pas trop qu'on rappelle.
Vous le traitez en deux lignes,
oui. Alors, j'ai quand même regardé s'il y avait une descendance. En fait, il n'y en a pas parce que le père de Tocqueville,
le père va arranger l'affaire. Quoi.
Voilà, il arrange l'affaire, il paye. De quoi assurer l'avenir de la jeune fille. Il lui trouve un mari, ancien militaire. Mais cette petite fille, en fait, n'aura elle-même pas d'enfant.
D'accord. Ouais. Parce que Tocqueville n'a pas eu d'enfant.
Non, mais il épouse, en fait, une maîtresse qui était déjà, selon les critères du 19e siècle, où une femme de 30 ans est une femme âgée, elle était déjà assez nettement au-dessus. Et donc, il n'a pas d'enfant avec elle.
D'accord. Oui. Ce qui frappe dans la jeunesse, vous avez le chapitre, le collégien, le lycéen, c'est qu'il va avoir un attachement à quelques maîtres, en particulier, vous évoquez la figure de l'abbé Louis Le Sueur, mais il a aussi des fidélités, des amitiés de collégiens, de lycéens qui vont durer longtemps. Donc il y a un cousin compliqué qui s'appelle Kergorlais.
Oui.
Il y a aussi quand même son grand ami Gustave de Beaumont. Donc ça, c'est ça, c'est plus tard. Donc Gustave de Beaumont, c'est 1802-1866. Il va lui survivre 7 ans. Alors c'est son compagnon de voyage en Amérique du Nord. Donc entre avril 1831 et février 32, au point que et après ils vont être ensemble députés. Les caricaturistes, vous dites. Page 67, ils vont même les surnommer Troquemont, tellement ils sont ensemble. Qu'est-ce que ça dit du caractère de Tocqueville aussi, ces grandes fidélités amicales?
Alors, c'est vrai qu'il a des amis toute sa vie. En fait, il a même un ami de collège qui est un garçon d'origine assez modeste, Eugène Stoffels, qui est le fils, et qui va garder comme ami jusqu'à la mort d'Eugène Stoffels.
Il lui écrit, il va le voir à Metz.
Oui. Enfin bon, il s'occupe de son fils qui est filleul. Donc c'est un homme d'amitié, un peu comme Montaigne et la Boétie, si vous voulez. Oui, c'est-à-dire qu'au fond, c'est quelqu'un qui n'est pas liant. Il n'a pas la bonne camaraderie parlementaire, je te tape dans le dos, etc. C'est pas son style. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir confiance et d'un constant échange intellectuel. D'où l'importance de ses lettres. Entre amis, ils s'écrivent, mais des lettres interminables, des lettres d'une dizaine de pages. Ils lisent tout ce qu'ils écrivent pour ceux qui sont écrivains. Je crois que ça correspond au sentiment. Quand on est dans une société où les choses ont beaucoup bougé, où Tocqueville est un homme de salon, mais sûrement pas un homme de grandes assemblées. Si vous voulez, il a la foule est quelque chose qui l'effraie. Et donc l'amitié, c'est cette façon pour qu'un homme qui doute de se rassurer continuellement sur la qualité de ce qu'il fait et sur la qualité de ses relations. D'où effectivement ces amitiés qui durent la vie entière.
Alors, vous venez d'employer à nouveau le mot là sur le doute. 2 ans avant sa mort, il écrit à une autre amie, Madame Schwetchin. Je ne sais pas si
si
je prononce bien. Donc c'est en 1857, 2 ans avant sa mort. Je cite un court extrait. C'est à propos de sa foi. Parce que le doute chez Tocqueville, il y a des formules qu'on va reprendre, c'est généralisé. C'est vraiment un doute, on pourrait presque dire ontologique, quoi. Alors le doute y entra, dit-il, à propos de sa foi, ou plutôt s'y précipita avec une violence inouïe, non pas seulement le doute de ceci ou de cela, mais le doute universel. Souvent, ceux qui découvrent la foi, je pense en particulier à Paul Claudel et à d'autres, parlent d'une violence dans leur dans leur acquisition de la foi. Là, c'est le doute qui rentre avec violence, dit-il. Dans le même texte, il dit « De temps à autre, ces impressions de ma première jeunesse, j'avais 16 ans alors, reprennent possession de moi. Je revois alors le monde intellectuel qui tourne et je reste perdu et éperdu dans ce mouvement universel qui renverse ou ébranle toutes les vérités sur lesquelles j'ai bâti mes croyances et mes actions. » Pour partir en Amérique, il écrit à son compagnon de voyage Beaumont en mars 1831, quelques semaines avant de partir. Nous sommes trop avancés pour reculer, mais partirons-nous avec la satisfaction de faire quelque chose de complètement bien. Au bout de 10 mois, à la fin de son périple, il écrit : Publierai-je jamais rien sur ce pays ? En réalité, je l'ignore. Il me semble que j'ai quelques bonnes idées, mais je ne sais pas encore dans quel cas de les placer, et la publicité m'effraie. Alors la formule de Sainte-Beuve à son sujet, que vous citez remarquablement bien, page 218, « Sur tout sujet, il a toujours une idée de plus qui ébranle son système. » Vous dites Sainte-Beuve s'en est moqué, voilà ce que dit Sainte-Beuve. « Nul esprit, écrit-il, ne se faisait autant d'objections au préalable et ne pourpensait. » Je suis allé voir ce que ça voulait dire, parce que honnêtement,
c'est un mot archaïque.
Le sens de ce mot qui veut dire penser longuement, mûrement, et ne pour penser en lui-même davantage avant d'entreprendre tous les mets, tous les si, tous les quarts qui peuvent entrer dans une tête chez lui, les agiter auparavant et les peser avec soin dans sa balance. Alors, on peut dire qu'il est quand même, ça aurait presque pu l'acculer à l'inaction et à la passivité totale. Or, c'est pas le cas.
Non. Alors, sur le plan religieux, la très belle lettre que vous citez là sur le doute qui se précipite, et qui est le récit qu'il fait d'une crise arrivée à 16 ou 17 ans, il était à Metz, à la lecture de Voltaire et des philosophes du 18e siècle. Il est clair qu'il a arrêté de pratiquer le catholicisme à l'adolescence, à partir du moment où il a quitté en fait le milieu familial et la mère, etc. Bon, il avait été élevé de façon extrêmement traditionnelle par son précepteur, qui lui faisait pratiquer la prière assidûment, et à l'adolescence, en fait, il s'en éloigne. Ça veut pas dire que, d'une part, c'est un récit rétrospectif fait sur le tard à Madame Swetchin, alors qui est une femme absolument extraordinaire. Madame Swetchin, c'est une Russe qui a quitté la Russie en épousant sur ordre de son père un vieux militaire, ce qui n'est pas un mariage exactement d'amour dans son cas, mais elle lui reste fidèle, et elle quitte parce qu'elle a été convertie au catholicisme par Joseph de Maistre, et que le tsar a une politique de poursuite par rapport aux catholiques. Elle, à 18-19 ans, elle connaît le français, l'anglais, l'allemand, le latin, le grec, le russe. Enfin bref, bon, c'est une femme qui lit énormément. Elle arrive à Paris, elle a un salon, et qui est un salon extrêmement pieux. C'est elle qui est en quelque sorte le guide spirituel de la Cordère, qui va refonder les Dominicains, de Montalembert, qui va être le grand homme des catholiques libéraux. Et Tocqueville, qui la connaît lorsqu'il est déjà âgé, est absolument fasciné par cette femme qui n'est pas belle, qui est plus âgée, mais qui a une espèce de générosité formidable. Et du coup, il lui raconte ça, et à elle seule. Et peut-être qu'il amplifie un petit peu son désespoir de l'époque, parce que dans ses lettres de jeunesse, il est moins désespéré tout de même. Il n'empêche qu'il s'il a des doutes, il croit toujours en l'immortalité de l'âme, l'existence de Dieu. Il est déiste en réalité. Ce qui ne l'empêche pas de pratiquer quand il est en Normandie, pour ne pas désespérer Billancourt, si j'ose dire, c'est-à-dire pour ne pas ébranler les croyances des autres, ce qui lui paraît fondamental sur le plan social.
Puis qui sont ses électeurs.
Oui, mais non, je crois qu'il croit sincèrement que une religion, quelle qu'elle soit, est absolument indispensable pour assurer des objectifs communs. Donc, il doute tout en gardant un certain nombre de croyances de nature déiste. Je dirais que dans son comportement, comme vous l'avez rappelé, effectivement, il n'est jamais sûr d'arriver au but qu'il s'était fixé. Il dit lui-même, c'est un terme de joueur, je cave trop haut. Je me donne des ambitions trop hautes, et puis après, on doute, et puis on arrive plus ou moins à les réaliser. Ce qui explique qu'il n'a pas l'écriture facile. C'est très rassurant pour nous tous. Il écrit La seconde démocratie, il met 5 ans à l'écrire. Oui. Il change complètement d'idée. L'ancien régime, il croit écrire juste un chapitre d'introduction, et puis finalement, ça fait un livre entier, et il met des années à l'écrire, et il rature. Il y a jusqu'à 5 versions successives. Donc, il écrit sur une colonne, il rature, il recommence, il rature, il recommence, il rature. Et donc, c'est quelqu'un qui n'est jamais tout satisfait de lui-même, en quelque sorte. Mmh. C'est ce qui fait qu'il est sympathique, d'ailleurs, et que c'est un homme moderne. C'est-à-dire qu'il est toujours partagé entre le désir de faire plus et puis le sentiment que... on n'arrive pas à faire exactement tout ce qu'on voudrait.
Oui, puis là, autre point, cet état de doute qui consiste presque à penser contre lui-même, c'est un vaccin radical, si je puis dire, contre tous les extrêmes.
Absolument. Ouais. Oui, c'est d'ailleurs une façon de débattre avec le lecteur. C'est finalement le lecteur est respecté en tant que lecteur et même non spécialiste, et les objections que se fait Tocqueville sont celles aussi que se ferait le lecteur et que lui font ses amis, qui eux-mêmes font des objections.
On évoquait sa scolarité. Bon, vous dites que même quand il fait des études de droit, alors c'est l'époque où on fait une thèse en latin et puis une thèse en français. Hein. Bon, disons que ça ne va pas marquer fondamentalement les travaux universitaires.
Hein. Non, bon. Non, il n'a pas brillé en licence.
C'est ça, voilà. Et donc, il rentre dans la magistrature. Il est magistrat, il faut dire un petit peu ce que c'est. Sous ce terme quand même, hein, parce que c'est pas non plus un président de cour d'assises ni un juge d'instruction. Hein, il est en droit commercial, enfin en droit des affaires.
Alors
plutôt.
Non, il fait du pénal.
Il fait du pénal. Il plaide dans l'Est.
Il plaide une affaire qui se termine par une condamnation à mort. Il plaide dans les innombrables procès qui sont la conséquence de la volonté du gouvernement de restituer aux aristocrates dépouillés par la Révolution leurs terres anciennes.
Oui, c'est donc, plutôt des contentieux.
Donc, c'est des contentieux sur des histoires de cours d'eau. Ça a le mérite de lui montrer la permanence des haines révolutionnaires, parce que c'est en permanence des problèmes de restitution. Hein. Mmh. Et Bernanos disait « La France est un grand magasin de rancune ». Ben, c'est exactement ça. En fait, la restauration est un grand magasin de rancune. Donc, il travaille beaucoup comme magistrat. Il n'est pas payé. Il est stagiaire, en quelque sorte. Il n'arrivera jamais à être payé pendant plusieurs années.
C'est un statut.
C'est un statut qui se comprend très bien dans un univers inégalitaire. Parce que si vous devez travailler plusieurs années sans être payé, vous êtes sûr que vous ne recrutez que des magistrats de bonne famille. Si vous voulez, c'était une façon de garantir que les magistrats étaient issus de milieux favorisés, puisqu'il fallait qu'ils aient cette longue période au bout de laquelle ils n'étaient jamais assurés de devenir payés. Un magistrat doit prêter allégeance au régime. Hein, on prête serment. À chaque promotion, on reprête serment. Et évidemment, à chaque changement de régime, il y a de l'épuration. Quand la monarchie de la Restauration tombe, Tocqueville perd en fait toute chance d'être un jour payé. Il s'en rend bien compte, c'est d'ailleurs pour ça qu'il part aux États-Unis. Oui. Je veux dire, il n'avait plus de carrière possible.
Alors là, il monte avec son ami Beaumont. Ça fait quand même un peu une histoire un peu cousue de fil blanc. Il propose une mission d'expertise du système pénitentiaire américain. Alors là, quand même, il faut que vous nous racontiez un peu les détails de cette affaire. C'est pas banal, c'est pas des grands magistrats.
Non, d'ailleurs, il faut qu'il demande un congé, évidemment sans traitement. Le voyage n'est pas payé non plus. Il voulait absolument obtenir un congé. Pour obtenir un congé, même si on n'était pas payé, il fallait trouver quelques bonnes raisons. Les prisons, d'abord pour un magistrat, c'était un sujet évidemment qui relevait de sa compétence. Les prisons, c'était un sujet extrêmement à la mode. À la fin de la Restauration et au début de la monarchie de Juillet. Elles étaient dans un état épouvantable en France. On a des descriptions, c'est l'enfer de Dante. Il y a des criminels rassemblés ensemble, les enfants sont mélangés, on leur donne n'importe quoi à manger. Enfin, c'est vraiment une situation tout à fait dégradée. On avait conscience que, si vous voulez, que ça participait à la criminalité. C'est le moment où on fait des statistiques sur la criminalité. Donc, on a une vraie crainte de la criminalité. On sait qu'elle est entretenue par les prisons, donc il faut une réforme. Donc il y a de très grands esprits qui s'intéressent à la réforme. Alors où chercher des modèles ? Ben, évidemment, il y avait la Suisse, ça n'aurait pas été loin. Mais pour ce qui est de partir, c'est évidemment beaucoup trop près. Donc l'idée qu'ils ont pour aller en Amérique, c'est de se dire finalement, la monarchie est tombée, remplacée par une monarchie que Tocqueville appelle une monarchie bâtarde, celle de Louis-Philippe. Tocqueville est persuadé que l'aristocratie, c'est fini. Que cette succession de révolutions montre qu'il n'y a plus d'aristocratie. Donc où trouver l'exemple d'une société qui soit pacifique, sans terreur, et qui soit une société démocratique. Mais il n'y a pas tellement de possibilités. La Suisse, c'est trop petit par rapport à la France, donc ça n'est pas un modèle. Donc le seul modèle qui s'offrait, c'était les États-Unis. Et Tocqueville et Beaumont partent en étant sceptiques sur ce qu'on peut apprendre des États-Unis, mais finalement, les États-Unis, c'est un pays de philanthropie, donc il y a beaucoup de prisons modèles. Donc le prétexte est quand même très bon. C'est pas seulement un prétexte, puisque la prison, c'est quand même l'endroit où on réfléchit sur les normes sociales. Donc c'est quand même important quand on veut réfléchir sur la paix sociale. Donc le pays est républicain, est un grand pays et a des prisons modèles. D'où la décision de partir, puisque de toute façon, c'est un coup de poker. Il faut trouver une façon de se refaire un avenir, devenir un expert. États-Unis plus que prison, parce que c'est pas très drôle quand même. Et ben, c'est une façon de se rouvrir un avenir.
Mais c'est sont des cas isolés où il y a une sorte de mode pour cette génération.
Alors, il y a d'autres gens
parce
qui partent.
Vous avez évoqué la mémoire de Chateaubriand, ça, c'est autre chose. Les Natchez, René, etc. Mais là, on est plutôt dans la période pré-romantique. Ça l'influence dans d'avoir le frère du tonton qui...
Oui, alors, ça l'influence sûrement. C'est pas déterminant. Mais il est clair qu'il a lu Atala. Il le cite chaque fois pour dire que vraiment c'est totalement inexact.
Oui, en fait, on a presque l'impression que Chateaubriand, c'est Hergé qui raconte des aventures de Tintin.
À peu près, oui.
Mais
en fait, Tocqueville n'est pas tout à fait quand même de bonne foi, parce qu'il se trouve que Chateaubriand avait commenté le voyage de Lafayette aux États-Unis, qui est un voyage triomphal en 1825, où les Américains célèbrent Lafayette, celui qui a délivré les Américains. Et Chateaubriand publie en 1827 un voyage en Amérique dans lequel il y a tout un éloge du système politique américain. Et Tocqueville, en 1826-27, trouve que vraiment c'est tout à fait criminel de trouver que les Américains sont un modèle. Donc il va en fait, d'une certaine façon, sur les traces de Chateaubriand, changer d'avis sur l'Amérique. Pas mal de gens étaient partis aux États-Unis pendant la Révolution française, parce qu'il fallait échapper à la terreur. Donc dans le milieu des Tocqueville, certains y étaient allés. Mais c'était des aristocrates de l'ancien monde, en quelque sorte. Donc c'est pas déterminant. Je crois que vraiment ce qui est déterminant, c'est l'idée, il faut aller voir, est-ce qu'on peut espérer quelque chose de nouveau ?
Alors, il y a une autre chose qui m'a un peu fasciné, c'est ils arrivent tous les deux, là, nos deux Français, là, Tocquemont, comme vous dites, et ils n'ont pas 30 ans, mais les portes s'ouvrent. L'ambassadeur de France aux États-Unis, à Washington, à la fin du voyage, il leur fait rencontrer des personnalités. Il rencontre Charles Carroll, 95 ans. À Baltimore, c'est un des pères fondateurs.
Oui.
C'est quand même une grande figure. Ils ont Madison. Ils ont tout. Et comment ils ont pu ouvrir leur carnet d'adresses comme ça?
Alors, ils sont partis avec des dizaines de lettres de recommandation, mais ils ne les ont pas utilisées.
D'accord.
En fait, ils n'en ont pas eu besoin.
Plus méritoire.
Y a deux raisons. Bon, d'une part, à Boston ou Philadelphie, pas mal d'Américains francophiles parlent français. Tocqueville et Beaumont parlent mal français, mal anglais, donc c'est providentiel. Ont été ambassadeurs en France, etc. C'est-à-dire qu'il y a un milieu à la fois francophone et francophile à Philadelphie, Boston, enfin dans l'Amérique de l'Est, qui va les accueillir avec beaucoup de joie, en fait. Bon. Et puis, la deuxième raison, c'est la vanité des Américains, que Tocqueville, d'ailleurs, remarque. Ils sont très flattés C'est un petit pays, les États-Unis à l'époque. Hein. Il y a 10 millions d'habitants, la France en a 30. Voilà, il faut se replacer dans le. Ils sont très flattés qu'on vienne admirer chez eux, ou en tout cas enquêter chez eux sur les prisons. Et aussi, et ça c'est une forme de snobisme américain, ils sont très impressionnés parce que ce sont de jeunes aristocrates de bonne famille. Et dans ce pays où il n'y a pas d'aristocratie, puisque les aristocrates anglais sont repartis de l'autre côté, et ben dans ce pays où il y a en tout cas peu d'aristocratie, l'aristocratie européenne bénéficie du prestige des vieilles choses.
Les jeunes diraient aujourd'hui, ils sont stylés.
Voilà, exactement.
Il y a un tournant dans leur voyage, c'est un peu au début, puisque ils commencent en juin, c'est le 4 juillet à Albany, qui est, je crois, la capitale de l'État de New York.
Oui,
c'est ça.
Oui.
Vous dites, il y a un point de basculement, c'est là qu'il devient Tocqueville l'Américain.
Oui.
Bon, 4 juillet, c'est la fête de l'indépendance.
Oui, c'est ce qu'on va célébrer cette année.
Oui, c'est ça, les 250 ans. Qu'est-ce qui découvre là,
au début, il est quand même assez réticent parce qu'ils arrivent à New York. New York, c'est une ville de commerce. Mmh. Donc, il est ébahi. Il dit c'est comme une lanterne magique. Il est ébahi par l'activité de New York. Bon. Mais pour un aristocrate français et peut-être pour un Français tout court, le monde de l'argent, c'est pas ce qu'il y a de plus séduisant. Et donc, ils vont à Albany puisqu'ils sont en train de remonter vers le nord. Et là, ils assistent au défilé des vétérans, c'est-à-dire ceux qui ont combattu dans les armées américaines, pour le 4 juillet. Et pour un Français, fils de préfet, ce défilé n'est pas exactement un défilé réussi en termes de décorum, hein, parce que les gens ont des uniformes dépareillés, bon, ils ont une seule flûte et pas des tambours et une fanfare militaire correcte, etc. Donc c'est pas ça qui les éblouit, ni le discours qui est fait, qui est lamentable. Enfin, on remonte à l'origine de l'humanité, c'est interminable, etc. Bon. Mais ce qui les éblouit, c'est la concorde de tous ceux qui défilent autour du souvenir de leur naissance. Si vous voulez, c'est quelque chose qui existe encore aux États-Unis. J'ai été très frappée en février dernier. Il y a eu une grande manifestation dans laquelle les protestataires défilaient en portant le fac-similé de la Constitution américaine sous forme d'immenses drapeaux. Bon.
We the people,
etc., ouais. Sur un immense drapeau sur la foule. Et ce qui frappe Tocqueville, c'est cet attachement aux origines et à la Constitution d'origine, etc., cet attachement aux valeurs initiales, en fait, de ceux qui ont conquis leur indépendance. Et je comprends qu'il soit frappé, parce qu'il vient, c'est un portrait de la France en creux. Il vient d'un pays dans lequel il n'y a pas de mémoire partagée. La mémoire de la Révolution n'est pas une mémoire partagée à cette époque-là. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est une mémoire partagée. Mais on est encore, si vous voulez, dans une France en guerre, une France en guerre civile. Et on serait bien en peine, si vous voulez, de se référer à une constitution qui serait la constitution admirée de tous. Et donc c'est ça qui le frappe et qui est vraiment, je pense, un des points forts d'ailleurs de l'histoire américaine. Et à partir de ce moment-là, il va s'intéresser au civisme américain, au civisme local et puis à la constitution américaine. Donc c'est vraiment un point de basculement.
Alors, il fait un voyage qui est tout à fait remarquable. Hein. Après la partie New York, Boston, Philadelphie, il monte vers le nord. Donc, ça va être le Québec et la partie... il retrouve les Français, là-bas.
Bah là, il y a des raisons. Hein. Voilà, il n'a aucune raison pour son enquête d'aller au Québec. Hein. Non, il n'y avait pas de prison remarquable au Québec. Non, ça, ce n'est pas du tout la raison. La raison, c'est que Tocqueville à la nostalgie de la grande France qui avait à la fois le Canada et la Louisiane, le Québec et la Louisiane. Et donc, on va... les gens ne savaient rien du Québec, hein, à l'époque de Tocqueville. En fait, le Québec n'avait pas de contact avec la France. Tocqueville pensait que personne ne parlait français. Il pensait que c'était complètement fini. Donc, ils vont sur les traces d'un monde qu'ils imaginent disparu, en touriste, en quelque sorte. Et là, ils sont dans un état de ravissement sentimental parce que ce qu'ils trouvent, ce sont des gens qui parlent le français tel qu'on le parlait en plus dans le passé, avec des églises au centre du village. Enfin, ils retrouvent en quelque sorte la France d'autrefois.
Mais la France d'autrefois, ça fait moins de 100 ans.
Oui, mais la France a beaucoup changé entre-temps. Ils sont tellement éblouis qu'en fait, ils essayent de pousser les Québécois à revendiquer leur indépendance et vivre le Québec libre parce que il faudrait retrouver cette grande France, vous voyez.
Oui. Qui va retrouver d'ailleurs après en allant à la Nouvelle-Orléans.
Voilà.
Hein, c'est effectivement
Mais la Nouvelle-Orléans, il peut quasiment pas y rester parce que comme ils ont sombré deux fois, qu'ils ont eu des problèmes, il faut qu'ils repartent tout de suite.
Donc on prend le pont, il est là, quoi. Alors, au milieu de tout ça, il y a les Indiens.
Oui.
Ça, c'est assez passionnant parce que il y a un côté, vous dites, il est dans John Fenimore Cooper sur le dernier des Mohicans. Il retrouve les Indiens Mohawks et tout ça. C'est très important ce qu'il va découvrir aussi quand même là sur le sort que réservent les blancs américains aux Indiens.
Oui, c'est alors il part nourri de romans pour enfants, etc., sur les Indiens. Enfin, bah, et puis le souvenir de Chateaubriand, déception horrible. Il s'attendait à rencontrer Atala, Chactas, les Indiens de Chateaubriand, et puis il trouve des Indiens qui sont ivres, complètement dégénérés, etc. Et il va assister aussi à la déportation des Indiens, puisqu'en fait, c'est de son voyage que date la politique américaine du président Jackson, qui consiste en fait à repousser les Indiens au-delà du Mississippi en leur promettant des compensations tout à fait inexistantes. Sous couvert de droit, de fait, c'est de la spoliation. Et il y a une sympathie très grande de Tocqueville pour les Indiens, parce qu'il voit dans leur déportation la preuve de la rapacité des Américains. Alors que les Canadiens français se métissent avec les Indiens, c'est les coureurs des bois. Il y a toute une, une aventure en fait des métissages franco-indiens. Au contraire, les Américains ne se métissent pas et les Américains détruisent en détruisant l'économie des Indiens. Ils détruisent toute possibilité pour les Indiens au futur. Et donc, ce que Tocqueville voit qui est très intéressant, c'est qu'il y a un expansionnisme américain qui se fait sur leur propre continent et qui se fait en fait par dépossession, sous couvert de droit.
Il est très clairvoyant, hein,
oui,
parce que alors après au sud, il est dans le sud profond. Hein, alors il est hostile très vite à l'esclavage, hein, des blancs sur les vis-à-vis des noirs, même si par la suite il va être dans la situation de la société française pour l'abolition de l'esclavage.
Oui.
Donc faut pas commettre d'anachronisme historique hein, quand on parle de cette période. Finalement, son regard sur la société américaine, il n'est pas emballé.
Alors, il n'est pas emballé partout. C'est-à-dire qu'il n'est pas emballé du tout par l'expansionnisme américain, qui pense irrésistible parce que la différence de niveau de civilisation est considérable. Il est horrifié par l'esclavage, dont il considère que économiquement ça freine tout développement et que c'est contraire à tous les principes de l'humanité. Il pense même que la question de l'esclavage ne sera pas résolue aux États-Unis, qu'elle risque de faire éclater les États-Unis. Et ça, il le voit très tôt.
Il faut quand même imaginer qu'on est en 1830 et la guerre de sécession, c'est 1860.
Tout à fait.
Donc, il a presque 30 ans de.
Il voit très bien qu'il n'y a pas de solution parce que, en fait, les Blancs n'accepteront jamais d'être les égaux des Noirs. Et la raison, c'est que, alors que il est très sensible au mouvement vers l'égalisation, la similitude des hommes, il pense que la couleur rappelle en permanence qu'il y a eu une égalité ancienne et que donc, du coup, c'est quelque chose sur le quoi l'imagination n'arrive pas à passer. Du coup, si vous voulez, il est persuadé que ni au nord ni au sud, les Noirs n'arriveront véritablement à l'égalité sans une guerre civile, sans l'extermination d'une des races, etc. Alors, cela dit, pour la France, il est abolitionniste aussi. Hein. Il a toujours été très hostile à l'esclavage, très tôt.
Mais il ne connaît pas la société des Antilles.
Si. Alors, il n'y va pas.
Oui.
Mais il fait un des premiers rapports sur l'abolition de l'esclavage en 1839, où il demande une abolition immédiate au motif que on n'éduque pas les gens à la liberté en les privant de la liberté. Donc il faut une abolition tout de suite. Il va de nouveau participer à une commission d'abolition de l'esclavage en 1840. Il fait partie des commissions de 1848 sur l'abolition non pas sur l'abolition en 1848, parce qu'en 1848, l'esclavage est aboli par décret avant que l'Assemblée ne se rassemble, ce qui était prudent, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver avec une Assemblée.
Schœlcher a réussi à convaincre Arago.
Schœlcher fait ça tout de suite pour éviter toute contestation. Mais ensuite, il y a des commissions sur les modalités de l'émancipation, et notamment sur un sujet qui indigne Piketty aujourd'hui, et quelques autres, qui est le fait qu'on donne une indemnité aux colons. Tocqueville est favorable à ce qu'on donne une indemnité aux colons, comme Schœlcher, d'abord parce qu'il y a un lobby très puissant des colons, et puis parce que si on a, les colons, s'ils avaient été ruinés, ils étaient déjà très endettés, auraient arrêté de donner du travail aux Noirs, et on se retrouvait avec une situation économique ingérable.
Alors, quand ils rentrent des États-Unis, avec, faut qu'on avance, hein, avec Beaumont, ils publient très vite un rapport qui s'appelle « Du système pénitentiaire aux États-Unis et de son application en France ». Ouvrage, vous dites, qui a complètement disparu, qui est passé sous les radars, et c'est Alain Perfit qui le ressort en 1977, alors qu'il est garde des Sceaux de Valéry Giscard d'Estaing, avec d'ailleurs un mauvais procès, à mon sens, de Svetlana Todorov, qu'on a connu mieux inspiré, qui va parler de la mauvaise odeur du libéralisme vis-à-vis de Tocqueville. Voilà, ça, c'est le premier livre. Et puis, en chantier, donc, La démocratie. Et ce qui est très intéressant, c'est dans une lettre à Kergorlay, vous la mettez en exergue de votre chapitre 12, il dit à Kergorlay: indiquer, s'il se peut, aux hommes comment faire pour échapper à la tyrannie et à l'abâtardissement en devenant démocratique. Le mot, c'est démocratique au pluriel. Telle est, je pense, l'idée générale dans laquelle peut se résumer mon livre. Bon. Et c'est là, c'est le premier tome de la démocratie en Amérique. Et vous dites, c'est assez incroyable. Peu d'écrivains de 30 ans ont eu pour lecteur Metternich, le roi de Suède, Cavour, l'ancien président des États-Unis John Quincy Adams, qu'il a vu pendant le voyage, et autant de Français illustres. Ce succès était improbable. Le public boudait la littérature politique, qui souffrait de la concurrence des journaux, ne faisait exception que les courtes brochures dont le tirage gonflait en période de crise dans ce marché morose. Comment la démocratie put-elle devenir sinon un best-seller, du moins une référence dans tout l'Occident politique et savant? Alors, je vous retourne la question.
Oui, c'est vrai que c'est improbable. D'ailleurs, l'éditeur n'avait tiré qu'à 500 exemplaires en se disant « ça ne marchera jamais ».
Tocqueville le traitait de gros porc, c'était un pingre. Ouais. Il est sort de 500 en 500.
Voilà, mais là, il n'y croyait pas du tout. En fait, il pensait que ça serait un petit ouvrage. Alors, en plus, la France avait un conflit avec les États-Unis à ce moment-là, puisque les États-Unis demandaient des compensations pour les vaisseaux qui avaient été coulés par Napoléon. Bon, l'histoire des relations franco-américaines n'est pas un long fleuve tranquille, amical.
C'est pas des droits de douane.
Voilà, c'est plus compliqué. En fait, je pense que la raison de son succès, bon, c'est d'une part qu'il y a le sentiment que les régimes vacillent quand même. On est dans une période où il y a une révolution en France, mais il y a des troubles dans tous les pays européens. Donc, il y a l'idée que le monde est en train de changer, et donc il faut bien regarder ce qui se passe dans des pays qui sont différents. Je crois qu'il y a une autre raison, c'est qu'en fait, l'Amérique que décrit Tocqueville, dans les institutions américaines qu'il décrit, c'est la description adaptée à des Européens. C'est-à-dire qu'en fait, il ne décrit pas tout ce qu'il a vu aux États-Unis. Les carnets de voyage, il y a beaucoup plus de choses. Il décrit ce qui est utile pour des Européens, ce qui est précisément peut-être imitable par eux, ou en tout cas adaptable. Par exemple, avoir deux chambres, avoir un pouvoir des juges partiel, avoir toutes choses qui sont possibles sans révolution. Et donc, en quelque sorte, alors qu'aujourd'hui, les Américains pensent que c'est une excellente description des États-Unis, en fait, c'est surtout un bon livre écrit pour le public qui vise, c'est-à-dire des Européens, y compris des Européens qui ont des envies de réaction, Il essaye de leur dire, c'est son milieu familial, il essaye de leur dire, écoutez, ça sert à rien de résister. Il faut vous adapter, essayer de vous adapter le plus intelligemment possible pour sauver ce à quoi vous tenez. Et donc, vous voyez, c'est un livre, je dirais, c'est pédagogique en quelque sorte, parce qu'il y a une réflexion sur ce que sont les diverses traditions. C'est ça que je trouve fascinant. C'est qu'au fond, ce livre que les Américains se sont approprié, d'une certaine façon, c'est un livre qui est écrit pour d'autres, pour les Européens.
Et d'ailleurs, vous le dites très bien, le titre initial, selon Tocqueville, de la démocratie, c'était « L'influence de l'égalité sur les idées et les sentiments des hommes ». Vous dites que c'est rébarbatif, mais juste.
Oui, enfin, heureusement que l'éditeur a résisté.
Oui, mais vous dites que ça correspond presque plus au contenu du livre.
Oui, parce qu'en fait, les lois et les institutions ne permettent pas de réformer véritablement un pays. En fait, ce qui réforme un pays, ce sont ses mœurs, c'est-à-dire ses habitudes. Et s'il suffisait de changer les institutions pour changer les mœurs, on le saurait, dit-il. Et donc, l'axe, c'est qu'il faut agir sur les mœurs et que les institutions aident à changer les mœurs. Mais il ne croit pas, si vous voulez, qu'un traité de droit va permettre d'accéder à la démocratie.
C'est pour ça que le tome 2 est presque plus passionnant encore que le tome 1. Parce que, d'ailleurs, d'une très grande modernité, la thématique du tome 2, qui est donc écrite 5 ans, qui sort 5 ans plus tard. Hein. Vous dites, sur lequel, d'ailleurs, vous disiez tout à l'heure, il a eu peut-être sans doute plus de difficultés à écrire. Mais il aborde des catégories, comme la problématique, justement, des mentalités, de la société. C'est assez moderne, comme même, j'allais dire, dans recherche en sciences sociales, quoi.
Oui, en fait, au début, il avait pensé faire quelque chose de beaucoup plus simple. Oui. Il avait pensé qu'il avait fait un tome sur les institutions américaines et qu'il allait faire un tome sur les mœurs, les idées, les sentiments. Et puis, en fait, c'est l'époque aussi où il fait des campagnes électorales. Il se met à lire énormément de littérature européenne. Ça va de Dante à Montaigne. Enfin, bon, et progressivement, sans s'en rendre compte, sauf à la fin, il va dévier vers le projet de décrire les mœurs, les sentiments et les idées des démocraties en général, et notamment en incluant la France, l'Angleterre, où il va voyager, et les États-Unis en partie. Donc c'est un projet, vous voyez, une description presque typologique.
Vous dites que ça préfigure la typologie weberienne.
C'est une tentative pour penser à la fois des sociétés très différentes, et pour se demander vers quoi elles vont. Il y a des chapitres passionnants. Par exemple, nous allons vers des rapports beaucoup plus égalitaires entre les parents et les enfants, entre les maîtres et les serviteurs. Nous allons vers le goût des livres les plus faciles possibles. Oui, bon, toute cette littérature de masse. Bon. Donc, c'est vraiment une réflexion sur les tendances du monde occidental, en fait.
Il faut qu'on avance, malheureusement, parce que on pourrait discuter pendant des heures. Alors, on va aborder le Tocqueville politique. Oui. Il m'est venu à l'esprit, il débute sa carrière politique en 1839, et puis très vite, ça fonctionne. Hein. Il est élu conseiller général du canton de Valognes, donc c'est pas très loin de Saint-Lô. Hein. Et c'est un peu le hasard, mais on va passer sur les circonstances, mais il y a le château de Tocqueville là
qui était assez largement abandonné Et puis entre nous, au début, il aurait préféré être élu à Saint-Germain-des-Prés ou à Versailles. C'est ça, c'est quand même plus proche de son milieu.
Alors finalement, Marie va s'installer là-bas.
Oui,
elle devient en quelque sorte la tutrice de
l'agent électoral.
Voilà, exactement. Et lui, il va faire la navette. Alors je me suis dit, mais quand on regarde, par rapport à quelqu'un que vous connaissez forcément, parce que quand on est à Sciences Po Paris, évidemment, on connaît la figure d'André Siegfried.
Oui.
André Siegfried, ce qui est quand même assez fascinant. Alors, on est 50 ans plus tard.
Hein. Oui.
Quelque part, il n'a pas les mêmes origines, mais le père d'André Siegfried, Jules, maire du Havre, ministre sous la Troisième République. Et André Siegfried, je crois qu'il a dû se présenter à 14 élections. Il n'a jamais été fichu de se faire élire où que ce soit, à quoi que ce soit. Il en rigole même un peu. Il n'est même pas élu conseiller général, le fondateur, un des fondateurs de la sociologie électorale. Bon.
Mais il y a un point commun.
Oui.
Siegfried écrit parce qu'il échoue. Oui. C'est grâce à ses échecs qu'on a oui. l'œuvre de Siegfried. Et d'une certaine façon, Tocqueville écrit aussi, quand ça va mal, il a le temps de finir le deuxième volume de La démocratie en Amérique parce qu'il a été battu en 1937. Oui. Donc là, il écrit. Et pourquoi est-ce qu'il devient historien après 1850-51
oui,
parce qu'il a échoué. Oui, et donc, il faut bien... il est comme Siegfried, c'est-à-dire il cherche des raisons générales à son échec.
Oui, et puis, jeunes, tous les deux, ils ont voyagé. Enfin, c'est les grands voyages de Siegfried en Australie, Nouvelle-Zélande, etc.
Tout à fait.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est vous dites que ce qui comptait surtout pour Tocqueville dans sa carrière politique, c'était l'implantation locale.
Alors, il pense qu'il n'est pas possible pour lui d'avoir une carrière nationale s'il n'a pas une forte implantation locale.
Vous dites qu'il adore le cumul des mandats.
Et il est absolument favorable au cumul des mandats et il considère en fait que les élections locales ont ce mérite que les candidats sont bien obligés d'avoir contact avec la population. Et donc ce qui compte dans un système démocratique, c'est le contact par la campagne électorale.
C'est un trait normand on a l'exemple avec Sébastien Lecornu.
en fait, il y a quelque chose de très profond là-dedans. C'est-à-dire que si on ne veut pas qu'il y ait coupure entre des élites politiques et le local, il faut qu'il y ait des campagnes électorales et qu'on dégage progressivement les attentes de la population. Ouais. Donc pour lui, on a eu de la chance, si vous voulez, qu'un grand penseur ne soit pas élu à Versailles où il aurait retrouvé les siens, mais se retrouve dans une région agricole quand même... un peu périphérique, dirons-nous, dans lequel il a vraiment appris ce qu'était le fonctionnement. Ce sont ses travaux pratiques, en fait. Mmh. Il a vu le système aux États-Unis du self-government, du gouvernement local, et il va l'éprouver en Normandie.
Oui, parce qu'il est profondément décentralisateur.
Très profondément, oui.
Ça, c'est quand même assez étonnant, parce qu'il n'emploie jamais l'expression de Girondin, d'abord parce qu'elle n'existe pas. Enfin, c'est Lamartine qui va inventer le...
Oui,
c'était des Brissotins, intérieurement. Mais donc, le mot n'est pas dans son vocabulaire. Mais par contre, chaque fois... Avec un père préfet, quand même. Mais chaque fois qu'il peut dire « c'est pas suffisamment décentralisateur », il le dit.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait... il pense qu'il faut centraliser la politique étrangère.
Le régalien.
Là, clairement. Et il pense même qu'il faut une politique nationale pour assurer une certaine égalité entre les régions. Mais ça, c'est une réaction d'élus locaux. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une politique nationale et qu'il n'y a pas de bon train pour les Normands, les bœufs normands ne se vendront pas et ceux du Massif central se vendront. Donc, inégalité. Donc, si vous voulez, il faut une politique nationale. En revanche, il pense que tout ce qui est politique sociale... c'est au niveau local, parce que c'est là qu'on connaît les véritables problèmes. D'où le fait qu'il écrit sur les enfants trouvés, sur les questions d'assistance, etc.
Les événements politiques, il les traverse parfois. Vous dites comme Fabrice à Waterloo, ça c'est le cas de 1848. On est dans Paris, il est à Paris, il n'est pas en Normandie. Bon, il est à la Chambre, il nous dépeint Lamartine, Guizot, Thiers, Barrault. C'est quand même, c'est toujours des portraits qui sont assez sévères et qui manquent surtout pas de style. Ce que je trouve très intéressant, c'est que il tient la chronique un peu de 48. Vous dites Marx fait ça pour dans la lutte des classes en France sur la Commune. Lui, c'est ça, c'est en 48. Voilà. Bon. Voilà ce qu'il dit. Le spectacle était nouveau. En 1789, la révolution avait été menée par des bourgeois et des lettrés. En 1830, les bourgeois avaient confisqué le pouvoir. En 1848, pour la première fois, une révolution faisait passer tout le pouvoir aux mains du peuple. Et donc, vous dites, il est démocrate la veille de la Révolution, il devient républicain le lendemain, à la chute de la monarchie de Juillet.
Alors, il est de gauche modérée jusqu'en 1848, il devient de droite républicaine après 1848. La Révolution, il l'a vu arriver. Il n'y participe pas, c'est un piéton de Paris. Il se promène partout pour examiner la Révolution. Il a très bien conscience que le centre du pouvoir se déplace. Et lui, qui avait eu peur de l'extension du suffrage universel avant 48, en devient vraiment le défenseur après 1848, parce qu'il n'y a plus d'autres fondements du pouvoir. Bon, il faut rappeler que La majorité des Français ne savait pas lire en 1848, donc le suffrage universel était quelque chose d'un petit peu compliqué à,
sujet à, débat, oui.
à gérer. Enfin,
il bon. Était ouais. hémiplégique, c'était que les hommes depuis de 21 ans.
Ah, de toute façon, c'est le suffrage ouais. universel masculin.
Voilà, en fait,
masculin.
Il faut préciser parce que.
Absolument, c'est... on a été très en retard pour le suffrage oui, universel sûr, féminin, oui. mais très en avance pour le suffrage universel masculin.
1945, quand même. Ouais. Hein.
Les deux sont peut-être liés. On est allé très vite sur l'un, avec des difficultés à le gérer, et très lentement sur le suffrage féminin. Mais une fois que ça s'est passé, il voit bien qu'il y a un pouvoir du peuple, il craint les passions populaires, il ne condamne pas la répression féroce des troubles populaires de juin 1848.
Oui, mais il s'oppose quand même au vote pour les pleins pouvoirs à Cavaignac. Il craint la tyrannie militaire.
Alors, il a toujours eu peur de la tyrannie militaire, oui. Tout en reconnaissant après que Cavaignac était un homme très honorable.
D'ailleurs, il vote Cavaignac.
Il vote Cavaignac
et pas Louis-Napoléon.
Et pas Louis-Napoléon Bonaparte, alors que Hugo votera Louis-Napoléon Bonaparte. Ouais.
c'est ce qui fait qu'Hugo est encore plus en colère.
Hugo est plus à droite que Tocqueville en 1848 et plus à gauche après. Mais en fait, oui, il a toujours peur de la dictature militaire, mais il regrette d'avoir pris cette décision. Et je pense qu'il se rend bien compte en juin 1848 qu'il y a une répression féroce. C'est-à-dire les dragons à cheval foncent sur le peuple. Ouais. Enfin, c'est absolument épouvantable.
On parle de 4000 morts sur 70 000 à 100 000 combattants et 15 000 arrestations.
En fait. C'est énorme. C'est la raison pour laquelle le peuple ne se bat pas au moment du coup d'État de Napoléon Bonaparte. Et donc, Tocqueville voit bien que c'est en même temps une tragédie. Enfin, il en a parfaitement conscience.
Michel Vinocq, dans son livre récent sur la Commune, rappelle qu'au moment de la Commune des journées de 71, il y a le souvenir de...
Il y a ce souvenir-là.
48.
Oui, absolument. C'est d'un traumatisme énorme. Et si vous voulez, au fond, les bourgeois ou les aristocrates ont tous très peur. Tocqueville a peur, mais comme tout le monde. En fait, à partir de ce moment-là, il voit bien que le régime commence à partir par crainte des socialistes, qui sont comme le diable au Moyen-Âge, dit-il, dans l'imagination des bourgeois. Donc, par crainte des socialistes, le régime dérive en réalité vers de plus en plus de conservatisme. Il essaye de... Et ça lui paraît dangereux. Il voit arriver le coup d'État. Il essaye de freiner la dérive conservatrice en épousant certains thèmes, ce qui ne marche pas. Et donc, il va se faire complètement déborder.
Alors, il est ministre trois mois, du 2 juin au 31 octobre. Oui. Non, ça fait quatre mois.
Oui.
Voilà, pardon. Dans cette courte période, il y a un des multiples démêlés de la France avec les États pontificaux.
Vous allez à Rome, vous verrez qu'il y a encore la trace des boulets français dans les murailles que les Italiens conservent très précieusement pour montrer notre indignité. Effectivement, c'est le moment où la France envoie des troupes, d'abord pour empêcher les Autrichiens, très conservateurs, de mettre la main sur Rome. Et puis, en fait... finalement, on rétablit le pape dans des conditions qui rendent Tocqueville absolument furieux, parce qu'on rétablit le pape rétablit l'inquisition, etc. En fait, Tocqueville se fait rouler.
Alors, d'ailleurs, vous le dites, c'est très intéressant. Vous dites Nesselrode, qui était pour la Russie, Antonelli, qui était le secrétaire d'État, extrêmement cynique, rusé,
très fort
du pape, très fort. Vous dites Nesselrode, il est étonné, il dit, par Tocqueville, empêtré dans ses principes à l'eau de rose, dit-il. Là, il y a des vrais diplomates cyniques et ils sont eux-mêmes surpris par la naïveté des Français.
Mais en fait, c'est un problème qu'on a encore aujourd'hui, c'est-à-dire que les régimes autocratiques et despotiques... comme la Russie aujourd'hui, ont des diplomates extrêmement expérimentés. Les Chinois extrêmement expérimentés, qui ont la durée pour eux.
Et Lavrov,
Nesselrode, il va rester. Antonelli, il ne risque pas d'être renversé, etc. Donc, vous voyez, ce sont des gens extrêmement expérimentés.
Des professionnels.
Et face à eux, ils ont quoi? Ils ont des amateurs. Tocqueville, certes, s'intéresse à la politique étrangère, mais il nomme ses amis comme ambassadeurs. Ses amis sont intelligents, mais ils n'ont pas la durée pour eux. Ils n'ont pas l'expérience pour eux. Et ils ont des principes qui les freinent. Donc c'est le problème que nous avons actuellement, c'est-à-dire qu'on part en situation de faiblesse quand on est une démocratie.
Mais c'est pour ça que le livre est d'une étonnante modernité quand on le lit, avec finalement, sans faire de transposition, mais c'est tout à fait passionnant. Alors, il faut qu'on termine avec ce que vous appelez le regain, c'est-à-dire effectivement, coup d'État du 2 décembre 51. Vous dites, il a 45 ans, il se sent au seuil de la vieillesse.
Oui,
Voilà.
Ça nous paraît étonnant, mais à l'époque...
Alors, c'est pas Victor Hugo qui, évidemment, part...
Victor Hugo a un regain, et Victor Hugo n'aurait pas été Victor Hugo s'il n'avait pas eu l'exil.
C'est ça, c'est ça. Voilà,
il devient grand par l'exil.
Voilà, voilà. Oui. Alors, Tocqueville se met à écrire, à réécrire, et là, c'est l'Ancien Régime et la Révolution... C'est une relecture tout à fait passionnante, hein, avec cette idée qui consiste à remettre en quelque sorte, on dirait avec Brodel, le temps long, c'est-à-dire il travaille sur une période qui est un peu oubliée, y compris qui va l'être par Michelet, qui va avoir d'ailleurs moins de succès que l'Ancien Régime et la Révolution quand il sort. Il parle de l'Ancien Régime, quoi. Et il montre les linéaments entre de la Révolution française, quoi. Hein. C'est une œuvre qui est, vous trouvez, elle est traitée à sa juste valeur aujourd'hui ou...
Alors... Elle est traitée à sa juste valeur par les historiens, même si, évidemment, on a des sources différentes. Je pense qu'on n'en saisit pas l'importance pour tout le continent européen. En fait, la question de Tocqueville est une question, par certains côtés, actuelle. La question, c'est pourquoi est-ce que les Français s'obstinent à mal tourner ? C'est-à-dire qu'en fait, il y a des explosions de liberté, et puis après, on retombe dans les errements et on retombe dans finalement un système dans lequel les individus ont très peu de poids, avec une forte domination, disons, de l'administration.
Et
c'est une question, et donc, du coup, il fait de l'histoire, mais à partir d'une question politique et à partir de sa propre déception de la Seconde République. Du coup, c'est un livre qui réfléchit sur le mal français, en quelque sorte.
Oui, c'est ça.
Et ce mal français, c'est aussi un mal européen, parce qu'il remarque que la Russie, ben c'est pareil, c'est un absolutisme qui a du mal à sortir. Et il a une vision qui est intéressante, c'est qu'en fait, le socialisme sort des pays absolutistes. Pourquoi ? Parce que le socialisme, c'est le culte de l'État, et donc, en fait, c'est un absolutisme bâtard, si j'ose dire, si vous voulez. D'où cette divination sur la Russie qui va basculer d'un absolutisme socialiste. Et que fait-il pour l'enquête ? Eh bien, il va aller en Allemagne, parce que les Allemands, c'est comme les Français, mais en retard. Donc, quand on va en Allemagne en 1854, on peut revoir l'Ancien Régime encore tout vivant. Et il y a des points communs dans l'administration prusse, par exemple. En fait, voilà. Donc, c'est une forme de la culture continentale qui a cette révérence pour l'État et qui fait qu'on n'a pas de tradition, si vous voulez, d'autonomie de l'individu ni de gestion par les populations elles-mêmes. Donc, c'est un livre que je trouve fascinant parce que, d'une part, c'est un des premiers livres d'enquête sur archives. Il va examiner les archives administratives. À l'époque, elles ne sont pas classées. Donc, c'est très compliqué de s'y repérer. Et donc, il va regarder des liasses et des liasses sur les chemins, sur l'assistance, etc. Bon, il est aidé par son expérience politique, parce qu'un conseiller général, ça sait traiter un dossier d'assistance de chemin, etc. Donc, il le dit, d'ailleurs. Il dit, je vais faire comme ce que je faisais comme conseiller. Je prends les dossiers sur la voirie. Je regarde qu'est-ce qui se passe dans un pays, non pas au niveau uniquement des grands principes, mais au niveau de la gestion des affaires. Ça, c'est une perspective très moderne. Vous voyez, je veux dire, qu'est-ce que nous avons en France comme culture administrative ? Et ce que nous avons en France comme culture administrative, c'est l'habitude de demander à l'État de faire les choses à notre place. Il le dit, au XVIIIe siècle, c'est comme au XIXe, dit-il, il y a un seul endroit où vous trouvez tous les Français rassemblés, c'est dans les dossiers de demande de passe-droit, de subvention, etc. Voilà. Donc, il y a ce travail, vous voyez, sur, au fond, ce qu'est une culture politique. Et ça, je trouve, c'est absolument fascinant, parce que c'est une réflexion sur les constantes d'un pays, qui est un pays à la fois adorant la liberté, mais incapable de la pratiquer. En tout cas, de la pratiquer durablement.
Il meurt à Cannes, donc le 16 avril 1859. Vous dites d'ailleurs que sa mort donne lieu à une véritable mise en scène, y compris d'ailleurs vis-à-vis de la confession. Enfin,
oui. Voilà,
et à la fin de votre livre, vous terminez ainsi : il a fallu l'expérience des totalitarismes pour qu'on découvre en Tocqueville un contemporain capital et qu'on repère en lui non plus le poids des déterminismes, mais son talent à tirer du roman noir de son histoire familiale l'intelligence du monde démocratique. Je trouve trouve que c'est une phrase qui remet en quelque sorte Tocqueville au milieu de son village normand et de la France, dans la mesure où effectivement, là encore, on retrouve sa modernité dans la manière avec laquelle on peut comprendre un certain nombre de phénomènes politiques au XXe siècle en relisant Tocqueville, quoi.
Oui, parce qu'au fond, c'est un penseur pour les temps difficiles.
Oui.
C'est-à-dire que quand la République a paru bien installée, si vous voulez, d'une certaine façon, on n'est pas dans la réflexion sur la démocratie, ses risques, etc. Et bon, alors que ce qui s'est passé à partir des années 50-60, ça a été la redécouverte qu'une démocratie pouvait tourner mal, que la liberté n'était pas garantie et que l'égalité ne conduisait pas nécessairement à la liberté. Et que d'ailleurs l'égalité elle-même pouvait être mise en péril. Et donc je pense que c'est ça qui est fascinant, c'est comment dans cette période, alors que c'est un homme du 19e siècle, il pressent finalement des évolutions qui vont être celles des sociétés démocratiques, l'individualisme, par exemple. Et ce qui est très frappant, c'est que ce qui nous paraissait, nous, comme un mal français ou continental, aujourd'hui les Américains se reconnaissent dans ce mal. L'individualisme devient un des thèmes de la sociologie américaine. Et d'une certaine façon, ça s'applique. Il y a des livres aussi sur l'Inde et ce qu'elle peut apprendre de la lecture de Tocqueville. Il y a aussi une utilisation chinoise de l'œuvre de Tocqueville, mais elle me donne un peu des doutes, puisque la lecture de l'Ancien Régime a été recommandée aux dirigeants du Parti communiste chinois, et notamment la phrase qui explique que le moment le plus dangereux, c'est celui où on commence à se réformer. Là, bon, je ne sais pas quelle est la leçon politique qu'il faut tirer de ça. Mais en tout cas, la description de la société, clairement, elle répond à nos propres inquiétudes.
Et les rapports entre religion et État.
Absolument, l'idée que les religions correspondent à un besoin de l'humanité, sont peut-être nécessaires pour avoir des consensus, mais qu'en même temps, si elles sont confondues avec la politique, à ce moment-là, on perd toute possibilité de liberté.
Tout ça, c'est dans la démocratie. C'est
tout à fait. L'idée que l'individualisme détruit finalement la possibilité même d'une communauté politique. L'idée que on ne peut pas avoir une démocratie bien réglée si l'ensemble des citoyens ne sont pas impliqués dans la gestion des affaires. Je trouve que tout ça, ce sont des leçons pour aujourd'hui.
Voilà, ça s'appelle Tocqueville, tout simplement, de Françoise Mélogneau, biographie NRF Gallimard, et puis c'est donc honoré du prix Montaigne 2026. Merci, madame.
Merci.